dans la maison des Amis des Livres que j'ai rencontré pour la première fois à Ouéragan. Il était extrêmement brillant, extrêmement bavard, extrêmement érudit, mais il avait une sorte de fascination pour Villon. Et alors que nous étions déjà admirateurs d'Apollinaire, de Reverdy. Mais bientôt, Aragon, qui a une puissance d'assimilation extraordinaire, a tout de même compris ce que représentaient les champs magnétiques. Et c'est le premier. Car ni André Breton, ni moi-même, nous n'étions pas du tout sûrs de ce que représentaient les champs magnétiques. Nous n'avions pas encore compris l'importance de l'écriture automatique. Et c'est grâce à Louis Aragon, il faut le reconnaître, que nous avons compris ce que nous avions voulu faire. Et Aragon s'est montré enthousiaste, et comme toujours, avec cette puissance d'assimilation qu'il avait, il a premier vu l'importance de notre expérience. Et je dois dire que c'est grâce à lui si nous avons publié les premiers chapitres des champs magnétiques dans notre revue Littérature. Sans lui, nous n'aurions probablement laissé de côté ces expériences. Et je dois dire aussi que c'est lui qui, le premier, a en somme fait écrire un manifeste du surréalisme dans une vague de rêves. C'est donc lui, Aragon, qui a saisi l'importance que nous n'attachions pas à ce que nous avions commencé de faire. Et bien sûr, quand je revois cette époque, je me dis que c'était tout de même une chose extrêmement importante d'avoir l'avis et l'encouragement d'Aragon, qui pour nous était un homme qui importait beaucoup. J'étais le seul peut-être dont l'amitié nous rattachait au monde extérieur.
De Philippe Soupeau. Vous êtes d'accord, Philippe Forest? Est-ce que Aragon aurait saisi l'importance des champs magnétiques davantage que leurs auteurs?
C'est sans doute, si Soupeau le dit, c'est que ça doit être vrai, mais c'est intéressant qu'il le dise, parce que justement, dans l'historiographie officielle du surréalisme, on a souvent tendance à présenter un peu Aragon comme un auteur mineur et comme un suiveur, alors qu'il a été à la pointe du mouvement et qu'il a certainement encouragé, comme le dit Soupeau, Breton et Soupeau, à aller plus loin sur le chemin qu'ils avaient ouvert.
Pourtant, il a l'air de se présenter quand même toujours dans l'ombre de Breton, qu'il admire énormément.
Oui, mais justement, le premier roman d'Aragon dont on parlait il y a un instant, Anicet ou le Panorama roman, montre bien à quel point Aragon a été aussi sous la domination affective et intellectuelle de Breton, ce qui n'empêche qu'il a été aussi l'un des initiateurs du mouvement surréaliste, plus donc qu'on le dit d'ordinaire.
Oui, qu'il a écrit, c'est ce que dit Soupeau, hein, un manifeste surréaliste. Avant celui de Breton.
Une vague de c'est discuté par les spécialistes, mais il semble vraisemblable. Les deux textes paraissent à peu près au même moment, mais il semble vraisemblable qu'une vague de rêve ait précédé effectivement le manifeste du surréalisme, donc en 1924. Et puis même avant, c'est ce que je montre dans la biographie, ce sont des choses qui n'ont pas encore été assez étudiées, je crois, dont on trouve dans la correspondance entre Breton et Aragon des lettres qui montrent que si Aragon n'a pas inventé l'écriture automatique, en tout cas, il a pensé quelque chose qui ressemblait un peu des avant Breton.
Et là, il faut peut-être parler du Paysan de Paris, qui est un... Alors, est-ce que c'est un roman surréaliste? Est-ce que c'est un poème? Qu'est-ce que c'est, en fait, le Paysan de Paris?
Un roman surréaliste, en principe, ça n'existe pas, puisque Breton, dans le manifeste de 1924, condamne le roman comme un genre régressif avec lequel il faut rompre. Mais justement, Aragon, et ça donne un élément de plus pour comprendre ce dont on parlait précédemment, Aragon est à la fois proche de Breton et distant de lui, et notamment sur cette question du roman. Aragon ne veut pas, il le dit, renoncer au roman, et il pense que le surréalisme a vocation à se saisir du roman aussi. Et donc, il produit ce texte qui va causer la consternation chez les épigones du surréalisme, chez les disciples d'André Breton, le Paysan de Paris, qui est sans doute un roman surréaliste, mais qui est surtout un des très grands romans du XXe siècle. On a un peu tendance à l'oublier parce que on considère ça comme un texte un peu pittoresque sur le Paris des années folles. Bon, mais Walter Benjamin, qui est devenu une autorité que personne ne conteste, Walter Benjamin disait que l'éblouissement avait été le sien lorsqu'il a découvert Le Paysan de Paris, et sans doute que la réflexion que Benjamin a conduite par la suite sur les passages parisiens, elle vient directement de sa lecture du Paysan de Paris, puisque Aragon y raconte sa promenade dans le passage de l'Opéra et dans le jardin des Buttes-Chaumont.
Et que, pour vous aussi, c'est un des sommets de la littérature d'Aragon.
Ah oui, c'est même un des sommets de la littérature du XXe siècle. C'est un roman qui déconstruit le genre romanesque, qui parcourt tous les registres. Aragon disait un peu en plaisantant qu'il avait fait faire un pas de plus à la métaphysique avec ce livre. Parce que la modestie n'était pas la qualité essentielle d'Aragon, mais il n'est pas loin de dire vrai. Il y a une vraie profondeur philosophique qui fait que ce texte vaut sur le terrain de la pensée, l'œuvre de Benjamin dont on parlait il y a un instant, ou celle de Georges Bataille, il y a des liens aussi.
Et Paris aussi, comment se représente-t-il et comment représente-t-il la capitale?
Paris, c'est sa ville. Vraisemblablement, encore qu'on n'en soit pas tout à fait sûr, il est né à Paris, il est mort à Paris.
Pas à Madrid en tout cas, ça c'est ce qu'on sait maintenant.
Il a vécu l'essentiel de son existence à Paris et il a souffert de l'exil auquel il a été contraint, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des poèmes magnifiques d'Aragon sur Paris.
Dès cette époque, Philippe Forest, il faudrait parler d'amour chez Aragon. Vous n'abordez pas tout de suite cette question,
non,
vous laissez passer quand même un certain nombre de chapitres, et puis à un moment donné, vous avouez que le lecteur, effectivement, aimerait en savoir plus. Alors, il déclare placer l'amour au-dessus de tout. Est-ce que c'est le cas et quel type d'amour ?
On sait peu de choses sur les premières amours d'Aragon, mais enfin, il prétendait, c'était sans doute vrai, avoir été très précoce, donc avoir eu...
Il le dit d'ailleurs dans la première archive qu'on a entendue,
oui.
Avec un peu de forfanterie quand même.
Oui, c'est comme l'immodestie, la forfanterie, ça va un peu de pair. Et il y a aussi une pause de la part d'Aragon sur le terrain érotique. Ce qu'on connaît, c'est ses premières grandes amours avec une femme qui d'abord a été la maîtresse de Drieu La Rochelle, une autre qui deviendra la femme d'un autre surréaliste, Pierre Naville.
Donc il se passe comme ça, les femmes,
oui.
Drieu et Aragon.
Voilà, oui. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. On ne sait pas très bien il tombe amoureux des mêmes femmes, parce que justement ce sont les mêmes et qu'il s'imagine ainsi les partager. Puisqu'il y a une dimension aussi homo-érotique, très certainement dans ses premières amours d'Aragon, un homo-érotisme qui ressurgira à la fin de la vie de l'écrivain. Mais en même temps, j'aime pas trop employer ces catégories-là, parce que Aragon lui-même y répugnait. Il y a un texte formidable que je cite un peu longuement dans ma biographie, qui est le texte du débat que les surréalistes avaient eu les uns avec les autres sur la question de la sexualité. C'est une sorte de jeu de la vérité. Ils se promettaient de vouloir tout dire, presque de façon scientifique, sur leur propre rapport au sexe. Et le résultat est souvent assez concernant, parce qu'ils font tous un peu un saut de forfanterie pour prouver qu'ils sont plus virils que leurs camarades. Et le seul, enfin l'un des seuls, ce n'est pas le seul, il y a aussi Prévert, Queneau, etc. Mais disons que celui qui se démarque le plus, c'est Aragon qui dit « Il n'y a pas de règles en amour, il n'y a pas de normes en amour, toute liberté en amour, quelle que soit la forme que l'amour prend. » D'où son féminisme. Il est le seul, dans un milieu qui est quand même très machiste, il est le seul à dire que la femme a des droits équivalents à l'homme en amour.
Donc il y a plusieurs femmes qui se succèdent, R de Lanu, c'est comme
oui.
Ça qu'on prononce.
Je sais pas trop.
Denise Lévy et puis Nancy Cunard, oui. Qui a une importance presque aussi grande qu'Elsa aura par la suite.
Oui, Elsa prétendait que les plus beaux poèmes d'amour qu'Aragon avait écrits, il les avait écrits pour ou à cause de Nancy Cunard. Il y en a un qui est magnifique, notamment qui s'appelle « Poème à crier dans les ruines », qui est le poème qu'Aragon a signé après, a écrit après, après sa séparation d'avec Nancy Cunard, qui était un personnage absolument étonnant, flamboyant.
Qui passait elle aussi, enfin d'homme en homme quoi.
Oui oui, et qui était la, qui était poète, qui était proche d'un certain nombre de grands écrivains de l'avant-garde littéraire anglophone, anglaise ou irlandaise ou américaine, qui était la fille d'un milliardaire et qui était une dévoreuse d'hommes. Qui a jeté son dévolu sur Aragon, parce qu'Aragon en général aimait bien se laisser conquérir, se laisser séduire. C'est ce qui s'est passé à peu près avec toutes les femmes qu'il a connues, qu'il s'agisse d'Elsa Triolet plus tard ou de Nancy Cunard avant elle.
Et c'est donc sous ses yeux qu'il brûle le manuscrit d'un roman célèbre par son absence qui s'appelle La Défense de l'Infini.
Oui, c'est ce qu'il a raconté. On n'en est pas trop sûr non plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Aragon travaillait depuis des années sur ce livre qui aurait dû être son chef-d'œuvre, dont, dit-il, le manuscrit comptait plusieurs milliers de pages. Et en un geste sans doute de dépit amoureux, de provocation, un geste de par lequel s'exprimait une sorte de pulsion suicidaire, autodestructrice, Aragon aurait brûlé sous les yeux donc de Nancy Cunard, dans la chambre qu'il partageait à Madrid, une grande partie du manuscrit.
Dont il réapparaît régulièrement des morceaux.
Voilà, et il avait lui-même publié des extraits en revue, donc c'est ce qui a permis de publier ce livre, parce qu'on a quand même les vestiges, disons, du livre, donc on peut essayer de les mettre ensemble pour voir ce que ça aurait donné, mais les pièces, le plus grand nombre de pièces du puzzle nous manque.
C'est de toute façon quelqu'un qui aime brûler ses vaisseaux. À peu près à la même époque, il va décider de ne pas poursuivre ses études de médecine. Mmh. Et au fond, pour être libre, il va se mettre dans une situation où, sans argent, il n'est finalement pas très libre, Philippe Forest.
Oui, pour survivre, parce que sa famille lui coupe les vivres, comme on disait, parce que il est presque sur le point de devenir médecin. Il lui reste ses derniers examens à passer, et le jour où il doit les passer, il se rend à l'épreuve. Et dit-il, mais là encore, c'est un peu de forfanterie de sa part, comme il connaît trop bien les réponses à la question posée par l'examinateur, il décide de partir. Voilà, donc pour ne pas devenir médecin. Et donc il est obligé de travailler grâce à André Breton pour le compte du grand Doucet, le grand couturier qui à l'époque est un mécène qui fait travailler un certain nombre de jeunes artistes, de jeunes écrivains pour lui, et Aragon est chargé de lui constituer une bibliothèque.
Mais paradoxe extraordinaire, finalement, de se mettre sous la coupe d'un riche couturier pour soi-disant être plus libre.
Oui, mais ça durera pas longtemps, parce que après, quand Aragon rejoint le Parti communiste en 27, justement tirant les conséquences de l'engagement politique qui est le sien, il décide de renoncer à l'argent que lui verse Doucet, et une fois de plus, il se retrouve sans un sou.
Le village était vide. Les points d'accrochage des deux côtés tiraillaient, canardaient à 500 mètres. Depuis une heure déjà, l'agglomération était abandonnée par les dragons et les chars détruits. 11 chars français jonchaient les rues. Il n'y avait que des morts. Les uns dans les tourelles, d'autres qui avaient sauté à bas. Le cadavre d'un conducteur sur la porte d'une maison. Les murs éventrés. Le char du mort, probablement, qui a été se coincer là. Les maisons ici, ce n'était pas de la pierre, ça s'effondrait facilement. Jean était descendu du siège. Il touchait les corps avec une sorte de peur. À l'hôpital, il avait vu des Maccabées, rien de comparable. Retourner comme ça un homme jeune, fort, qui semble simplement accroupi dans une drôle de pose. Et il retombe, et on voit tout à coup le visage.
Un extrait des Communistes lu par Michel Bouquet, livre dans lequel Aragon raconte le début de la Seconde Guerre mondiale. On va devoir avancer à pas de géant pour raconter très brièvement la fin, la deuxième partie, disons, de la vie d'Aragon, qui commence donc avec cette Seconde Guerre mondiale et un épisode très important dans la Résistance.
Oui, c'est difficile de faire vite parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés, mais après un certain nombre d'hésitations liées notamment aux conséquences du pacte germano-soviétique, à la façon dont le Parti communiste est interdit, et donc Aragon se trouve complètement coupé de ses camarades, donc après quelques mois, Aragon rentre dans la Résistance, dont il va devenir l'un des principaux, l'une des voix principales, mais aussi l'un des organisateurs principaux, enfin de la Résistance intellectuelle, mais ça n'est pas rien.
Donc ça, c'est à travers un organisme, le Comité National des Écrivains, qui est un organisme parallèle au Parti communiste.
Oui, il y a toutes sortes de structures clandestines qu'Aragon est chargé de mettre en place, notamment dans la zone sud, puisque c'est là qu'il vit pendant la guerre. Et il va publier aux éditions de Minuit ou à la Bibliothèque française, qui est un peu l'équivalent en zone sud, notamment un texte qui est absolument décisif et qui, à mon sens, est trop peu connu, qui est le Musée Grévin, dans lequel Aragon, je crois, enfin personne ne m'a prouvé le contraire jusqu'à présent, et le premier poète à écrire sur Auschwitz grâce aux renseignements qu'il avait obtenus et dont il a fait état aussi dans le magazine clandestin qu'il dirigeait qui s'appelait Les Étoiles. Donc il dit les choses sur l'extermination, sur l'existence des chambres à gaz en plein milieu de la guerre.
Ce qui fait que au sortir de la guerre, il est une figure très importante avec Elsa aussi, sa femme qui était elle aussi dans la résistance, et il va prendre cette espèce de stature, toujours en lien avec son image de communiste, qu'il va garder presque jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à une dernière période qui couvre au fond le moment entre lequel Elsa meurt et la fin de sa vie. Donc il y a ce moment où il est un espèce d'écrivain officiel. Ouais. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui.
Bah, il faut dire les choses comme elles sont, hein, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Aragon a été stalinien au moment de la guerre froide, et il y a un certain nombre de prises de position qui ne l'honorent pas. Il a exercé un véritable magistère, même s'il a toujours été en difficulté au sein de son propre parti, parce que justement, on le jugeait encore trop peu stalinien par rapport à ce qui aurait dû être la norme. Et puis après, il y a toute la période de la déstalinisation, et là, Aragon va jouer un rôle tout à fait essentiel, hein, en favorisant, après la mort de Thorez, au sein du Parti communiste, ce phénomène de la déstalinisation, jusqu'à prendre des positions qui sont des positions assez étonnantes. Hein, au moment de mai 68, au début des années 70, il soutient les gens qui contestent le régime soviétique dans les pays de l'Est. Il soutient, disons, pour faire vite, ce qu'on appellerait des dissidents.
Mais quand même, après avoir travaillé si longtemps sur Aragon et cette question du stalinisme, qui reste vraiment le point d'achoppement principal hein, sur cette figure d'Aragon, quelle est votre intime conviction ?
Sur le point de savoir s'il a été ou non stalinien ?
Oui, enfin sur le point de savoir s'il aurait pu et s'il aurait dû comprendre ou dire des choses qu'il savait.
Mais ça, je me garde de porter un jugement trop expéditif, parce que je crois que tous les jugements qu'on peut porter sont des jugements rétrospectifs. Moi, c'est quelque chose sur quoi j'avais écrit dans mon roman Le ciel des nuages. Je pense qu'il faut être très, très prudent. Mais être très prudent, ça n'oblige pas à être complaisant. Aragon savait ce qu'il en était de la nature du système soviétique.
Alors pourquoi, au fond, rester si tard quand même, du mauvais côté ?
Il l'a dit lui-même, il est quelqu'un qui croit désespérément. Croire désespérément, ça veut dire croire avec l'énergie du désespoir, ça veut dire aussi croire sans espoir. Il a pris un pari et il a tenu ce pari tout en ayant sous les yeux un certain nombre d'éléments qui aurait dû peut-être, mais j'en sais rien moi, après tout c'est chacun qui juge en son âme et conscience, mais il a vu un certain nombre de choses qui auraient dû le détourner du communisme, mais en dépit de ces choses qu'il a vues, il est resté malgré tout fidèle à cet idéal jusqu'au bout.
Et le dernier Aragon, alors celui d'après la mort d'Elsa, ce dandy qui fréquente des garçons, qui patronne les écrivains les plus en vue, les plus à la mode.
Avec beaucoup de lucidité, hein. C'est quelqu'un qui était très attentif aux jeunes écrivains, aux jeunes artistes, et donc ça s'était mettre à son crédit. Après, il n'y a pas lieu de juger Aragon sur le terrain de la morale sexuelle, c'est ce qui s'est fait beaucoup à l'époque, notamment parce que son comportement cadrait quand même assez peu avec celui qu'on attendait d'un membre du comité central du Parti communiste. Je crois que c'est encore une preuve de la liberté d'Aragon et de son courage.
Et qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Merci beaucoup, Philippe Forest.